Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi des êtres vivants étaient si petits et d'autres si grands? Vous regardez un chêne, immense, du moins par rapport à vous. Puis votre regard s'arrête sur une fourmi qui grimpe le long du tronc, ridiculement petite. Tout cela pour dire que les rapports de taille au sein du vivant sont absolument énormes. À un extrême, on va trouver les plus petits virus qui mesurent 10 milliardièmes de mètres. Autrement dit, si je prends un virus, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis que je les aligne à la queue leu-leu, on peut en mettre 100 000 dans un seul millimètre. À l'autre extrême, c'est plus compliqué. Les plus grands arbres, qui sont les séquoias, atteignent 100 mètres de haut. Mais que dire du mycélium des champignons qui s'étale sur des centaines de mètres de manière souterraine? Peut-on d'ailleurs à ce moment-là encore parler d'individus? Et au passage, je vous rappelle que les champignons que l'on déguste ne sont que les organes reproducteurs de cet immense mycélium. Mais plutôt que de nous égarer dans le Guinness des records, essayons de réfléchir à quelques questions simples, et notamment aux conséquences d'être grand ou petit chez les animaux. Qu'est-ce qui fait qu'on est grand quand on est un animal? Intuitivement, pour nous, ce qui est grand, c'est ce qui est plus grand que nous. Un rhinocéros, un crocodile, on va considérer que c'est grand. Et ce qui est petit, c'est ce qui est plus petit que nous. C'est assez égoïste comme point de vue, mais c'est comme ça. Une souris, une mouche, on va dire que c'est plus petit. Ça veut dire qu'on voit simplement midi à notre porte. Chez les mammifères, le rapport de taille est de 1 pour 1000 entre le plus petit des mammifères, qui est une chauve-souris qui s'appelle la chauve-souris bourdon, qui fait 3 cm et qui pèse 2 grammes, et la baleine bleue, qui fait 33 mètres pour 135 tonnes. Bon, à ce petit jeu, on voit que nous, Homo sapiens, on est plus proche de la baleine que de cette petite chauve-souris. Chez les oiseaux, le plus petit est un colibri d'à peine plus de 3 cm et d'un poids de 2 grammes, tandis que le grand albatros, cher à Baudelaire, plane sur l'océan avec ses 3,70 m d'envergure. Question poids, c'est l'autruche mâle qui gagne avec 165 kg sur la balance. Chez les cousins des oiseaux, ces géants disparus que sont les dinosaures, le Diplodocus a été détrôné par un herbivore qui a été découvert en Argentine, qui s'appelle le Patagotitan, qui mesure 37 mètres de long, avec une masse estimée à 70 tonnes. Mais savez-vous que le plus petit des dinosaures était de la taille d'un colibri et avait une masse estimée à 2 grammes pour une taille d'environ 4 cm? Au fil de cette énumération, est-ce que vous avez remarqué que plus on est grand, plus on est gros? Évidemment, c'est une tautologie. Le poids augmente avec la taille. Et c'est même plus que ça. Parce que quand on regarde les rapports entre records de petitesse et records de gigantisme, le poids augmente toujours bien plus que la taille. Il existe un facteur 1000 entre la taille de la minuscule chauve-souris et celle de la baleine, mais le rapport est de 1 à 60 millions pour leur masse. Idem pour les dinosaures. On a un rapport de 1 à 1000 pour la taille et de 1 à 35 millions pour la masse. Alors pourquoi ? Simplement parce que la taille est une grandeur linéaire et que le poids augmente comme le cube de cette grandeur parce qu'il correspond à un volume en trois dimensions. Imaginez un petit cube, simplement un cube d'enfant, d'un jeu d'enfant. Si la taille linéaire des arêtes est multipliée par 3, son volume le sera par 3 fois 3 fois 3, 3 au cube, soit 27. Donc à cette aune, on voit finalement que le poids de la baleine, il n'est pas si énorme puisqu'elle aurait pu peser 60 millions, deux fois plus que notre chauve-souris, soit 2000 tonnes, et elle se contente de 135. Mais autre question, pourquoi la baleine est marine? C'est de la faute de 9,81 mètres par seconde au carré. Un peu mystérieux dit comme ça, mais ça veut dire l'attraction terrestre, la gravité. En effet, il faut garder à l'esprit que la gravité à laquelle est soumis un animal terrestre est proportionnelle à sa masse, et que nous venons de voir que cette masse augmente presque comme le cube de sa taille, ce qui engendre des contraintes mécaniques exponentielles sur le squelette et sur les muscles. Mais comme tout cela a des limites, c'est alors qu'Archimède intervient. Car si elle est négligeable dans l'air, sa poussée est importante en mer. et elle soulage d'autant les contraintes qui sont dues à la pesanteur. La baleine dit merci à Archimède. La bête va pouvoir grandir tranquille, enfin jusqu'à ce que d'autres contraintes la rattrapent. Petite question autour de la taille. Pourquoi les gros sont essoufflés ? Tous les animaux sont aérobies, c'est-à-dire que leur métabolisme repose sur un apport en oxygène, et que cet oxygène doit être distribué à tous les organes du corps et renouvelé régulièrement. C'est pour ça qu'on respire. Les reptiles, les oiseaux, les mammifères possèdent des poumons qui assurent le transfert de l'oxygène inhalé vers un transporteur, l'hémoglobine, qui va le livrer à domicile aux muscles, au cerveau, à la rate, au foie et à tous les organes. Si la masse corporelle augmente trop, le métabolisme devra ralentir faute de carburant suffisant, l'alternative étant d'accélérer le flux et donc de risquer l'essoufflement. Autre question, les grands ont-ils plus chaud ou plus froid que les petits ? Repensons à nos rapports entre longueur, surface et volume. La chaleur interne est dissipée par une surface, disons celle de notre épiderme ou celui de l'épiderme d'une vache. Cette même chaleur est générée en proportion d'un volume, celui de notre corps ou celui du corps de la vache. Or, le volume croît en raison d'une valeur au cube, la surface en raison d'un carré seulement. Par conséquent, à température externe égale, un gros animal diffuse proportionnellement moins de chaleur qu'un petit. C'est pour ça qu'il faut s'occuper des bébés qui ont plutôt tendance à avoir souvent froid parce qu'ils sont plus petits que nous. Donc quand il fait froid, être volumineux est parfait et les petits sont désavantagés. Et quand il fait trop chaud par contre, c'est l'inverse et les gros transpirent. Autre question, les grands vivent-ils plus longtemps ? Ce n'est certainement pas vrai au sein d'une espèce. En revanche, entre espèces, les plus grosses sont en moyenne plus longévives que les petites. En gros, un campagnol vit moins longtemps qu'un ours. J'ai bien dit en moyenne, car si intuitivement on se dit qu'atteindre une très grande taille va prendre du temps et qu'une grosse espèce ne peut pas accomplir son cycle de vie en peu d'années, c'est vrai, mais il n'y a pas que cela. Il faut également tenir compte de la quantité de nourriture disponible et du niveau de métabolisme de l'animal. Je vais vous donner un exemple. Et je vais le prendre chez les dinosaures. On va regarder un tyrannosaure. Quand on analyse la structure des os de tyrannosaures, on constate que ces grosses bêtes, qui faisaient quand même 10 à 12 mètres de long, qui pesaient plusieurs tonnes, ces grosses bêtes devenaient adultes entre 15 et 18 ans et vivaient 30 ou 40 ans. Cela n'est finalement pas si différent de nous, je veux dire d'Homo sapiens, qui, en dehors de la protection de la médecine, vivait à peu près ces durées-là, et pourtant on est bien plus petit qu'un tyrannosaure. Et c'est simplement le haut métabolisme couplé à la disponibilité des ressources qui explique la croissance rapide et la relativement courte espérance de vie du T-Rex. La durée de vie est donc aussi une affaire de métabolisme. Un métabolisme rapide fait la vie courte, un métabolisme lent fait la vie longue. Comme les individus des petites espèces ont également souvent un métabolisme rapide, cela leur fait deux raisons de mourir jeune. Question suivante. Être volumineux accroît-il les risques de maladie ? En tout cas, c'est vrai pour nous. L'embonpoint s'accompagne de risques cardiovasculaires et autres désagréments. C'est pour cela qu'on essaye de surveiller notre indice de masse corporelle. Autre chose, plus on est gros, et plus on a de cellules. Et plus on a de cellules, et plus le risque que certaines se mettent à faire n'importe quoi, se multiplient selon leur bon vouloir, augmente. Autrement dit, plus il y a de cellules, plus il y a de risques de cancer. Donc en toute logique, les éléphants, qui ont en gros 100 fois plus de cellules que nous, et les baleines, qui en ont 1000 fois plus, devraient tomber comme des mouches. Et pourtant, les éléphants et les baleines n'ont quasiment jamais de cancer. Si leur système de protection, des éléphants et des baleines, fonctionnait à l'image d'une autre, ils n'auraient sans doute pas survécu. Mais voilà, les éléphants possèdent plusieurs copies d'un gène, dit gène P53, qui active d'ailleurs un autre gène, lequel est capable de déclencher la mort des cellules endommagées avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Plusieurs gènes suppresseurs de tumeurs ont également été trouvés chez les cétacés et notamment chez les baleines. Les baleines produisent en outre un antioxydant, le glutathion, qui a le pouvoir de neutraliser les oxydants susceptibles d'endommager les cellules et de favoriser le cancer. Être grand interdit-il d'être souple ? Référence faite à la fable du chêne et du roseau chez les végétaux, la taille va avec une certaine rigidité. Mais qu'en est-il chez les animaux ? Pour éviter de se disperser, penchons-nous sur les vertébrés et prenons la flexibilité de la colonne vertébrale comme une sorte d'indice de souplesse. De beaux exemples de souplesse se trouvent chez les anguilles, les serpents, les orvets. C'est facile, plus une espèce sera longue, plus elle aura de vertèbres et donc d'articulations intervertébrales, et mieux elle conservera sa souplesse. Le record dans le domaine est détenu par un serpent qui a plus de 400 vertèbres. Mais rapprochons-nous encore de nous et de nos lumbagos et resserrons les comparaisons. Chez les espèces de mammifères, le nombre de vertèbres n'est pas seulement une affaire de taille. D'accord, un cheval qui est plus gros que nous totalisera 24 vertèbres dorsales et lombaires. Une vache 19 et un éléphant une vingtaine, alors que nous n'en avons que 17. Mais que dire de votre chat qui vous rend jaloux en affichant une souplesse totalement provocante ? Il est petit et bien que petit, il trouve le moyen d'avoir plus de vertèbres dorsales et lombaires que nous. Il en a 19. C'est totalement injuste. Et puis même chez nous, entre une personne d'1m50 et une autre d'1m90, pas une vertèbre de plus pour 40 cm d'écart. Alors, après, vous n'allez pas vous étonner que les grands aient mal au dos. Mais le maximum de l'injustice est à mettre au compte des cervicales. 7 cervicales chez la souris, le lapin, la loutre, l'ours, l'homme ou la girafe. En fait, tous les mammifères, sauf le lamantin. Pauvre girafe. Tous les mammifères ne luttent pas à armes égales contre le torticolis. Au vu de tout ça, pourquoi se casser la tête à être grand ? C'est un petit peu comme dans la cour de récréation. Les gros costauds, on les laisse tranquilles. Plus la nourriture est disponible, plus la taille est importante. Pour un lignage d'animaux, si la nourriture est abondante, il devient avantageux de devenir géant, car en jouant ainsi dans la cour des plus grands, on a peu de prédateurs. Et comme du fait de la pesanteur, la taille ne peut pas dépasser certaines limites, on ne se fait pas doubler. Mais petit, c'est bien aussi pour rester discret et se contenter d'une nourriture abondante à cette échelle. L'équilibre entre contraintes et avantages fait que tout le monde n'est pas grand et fort. D'autant que si tout le monde était grand et fort, on serait tous pareils et qu'il n'y aurait plus aucun avantage à l'être. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, Charles Trou.